Chapitre 11. Loi sur les animaux purs et impurs. Dieu donne des directives suffisantes. Le livre du Lévitique peut, à juste titre, être appelé le guide du sacrificateur. Il en a tout à fait le caractère. Il est rempli de principes pour la direction de ceux qui désirent vivre dans la jouissance de la proximité de Dieu. Si Israël avait continué à marcher avec l'Éternel selon la grâce avec laquelle il les avait fait remonter du pays d'Égypte, il lui aurait été un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19, verset 6. Mais ils ne le firent pas. Ils se placèrent sous la loi et ne purent l'observer. L'Éternel choisit une certaine tribu, et dans cette tribu une certaine famille, et dans cette famille un certain homme, et à lui et à sa maison fut accordé le grand privilège de s'approcher de Dieu comme sacrificateur. Or, les privilèges d'une semblable position étaient immenses, mais elle avait aussi ses graves responsabilités. Elle exigeait l'exercice incessant d'un esprit de discernement, car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance, et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi, car il est le messager de l'Éternel des armées. Malachie 2, verset 7. C'était l'une des tâches du sacrificateur d'expliquer les ordonnances de l'Éternel à l'Assemblée. Il devait être l'intermédiaire, toujours prêt pour les communications entre l'Éternel et le peuple. Il devait non seulement connaître pour lui-même les pensées de Dieu, mais pouvoir aussi les enseigner au peuple. Tout cela demandait une vigilance continuelle, une étude constante des pages inspirées, afin de bien s'imprégner de tous les préceptes et de toutes les lois et ordonnances du Dieu d'Israël pour être à même d'instruire la congrégation des choses qui devaient être faites. Il n'y avait là aucune place laissée à l'imagination. Tout était prescrit avec une précision divine. Il n'était pas permis à l'homme de décider quelque espèce de sacrifice devait être offert en certaines occasions, ni de quelle manière ce sacrifice devait être présenté. L'Éternel prenait soin de tout. Ni l'assemblée, ni le sacrificateur n'avaient la moindre autorité pour décréter, accomplir ou suggérer un seul détail de toute la longue série des ordonnances de l'économie mosaïque. La parole de l'Éternel ordonnait tout. L'homme n'avait qu'à obéir. Pour un cœur obéissant, c'était une grâce inexprimable. Aujourd'hui aussi, c'est un privilège inappréciable de pouvoir recourir aux oracles de Dieu et d'y trouver jour après jour les plus amples directions sur tous les détails de notre foi et de notre service. Ce qu'il nous faut, c'est une volonté brisée, un esprit humble, un œil simple. Le guide divin est aussi complet que nous pouvons le désirer. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Croire qu'il y ait quoi que ce soit que la sagesse humaine puisse ou doive compléter serait une insulte faite au livre sacré. Personne ne peut lire le Lévitique sans être frappé par le soin extrême du Dieu d'Israël pour procurer à son peuple les instructions les plus détaillées sur tout ce qui se rattachait à son service et à son culte. Et cette même leçon n'a-t-elle pas besoin d'être répétée maintenant aux oreilles de la chrétienté? De tous côtés, on élève des doutes sur la divine suffisance des saintes Écritures. On dit aux navigateurs chrétiens, directement ou indirectement, que la carte divine n'est pas suffisante pour tous les détails compliqués du voyage, que tant de changements se sont opérés dans l'océan de la vie depuis la formation de cette carte, que, en bien des cas, elle n'est plus adaptée aux besoins de la navigation moderne. On lui dit que les conditions de vie sont entièrement différentes maintenant de ce qu'elles étaient il y a quelques siècles, et que, par conséquent, il faut qu'il ait recours aux moyens fournis par les progrès de la civilisation et de la culture. Mon vif désir est que le lecteur chrétien puisse, en toute assurance, répondre à cette grave insulte faite au précieux volume inspiré. Je désire qu'il puisse y répondre, qu'on la lui présente sous la forme d'un audacieux blasphème, ou sous celle d'une savante argumentation. De quelque manteau qu'elle se couvre, elle doit son origine à l'ennemi de Christ, à l'ennemi de la Bible, à l'ennemi de nos âmes. Si la parole de Dieu n'est pas suffisante, alors de quel côté nous tournerons-nous? À qui nous adresserons-nous quand nous aurons besoin de secours et de lumière? Dieu nous dit que son livre peut rendre l'homme de Dieu parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. De Timothée 3, verset 17. L'homme dit que non, qu'il y a bien des choses sur lesquelles la Bible se tait et que néanmoins nous avons besoin de savoir. Notre réponse à quiconque met en doute la divine suffisance de l'Écriture est simplement celle-ci : ou bien vous n'êtes pas un homme de Dieu, ou bien la chose pour laquelle vous dites manquer de garantie n'est pas une bonne œuvre. C'est très clair. On ne peut le voir autrement, en considérant soigneusement 2 Timothée 3, verset 17. Oh, puissions-nous avoir un sentiment plus profond de la plénitude, de la majesté et de l'autorité de la parole de Dieu. Que nos cœurs soient mieux à l'unisson avec ces paroles du psalmiste. La somme de ta parole est la vérité, et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. Psaume 119, verset 160. Ces pensées nous ont été suggérées par l'examen du chapitre 11e du Lévitique. Nous y voyons l'Éternel faisant, avec de merveilleux détails, une description d'animaux, d'oiseaux, de poissons et de reptiles, et donnant à son peuple diverses marques par lesquelles il devait reconnaître ce qui était pur de ce qui était impur. Les deux derniers versets de ce chapitre nous en donnent le résumé. Telle est la loi touchant les bêtes et les oiseaux, et tout être vivant qui se meut dans les eaux, et tout être qui rampe sur la terre, afin de discerner entre ce qui est impur et ce qui est pur, et entre l'animal qu'on mange et l'animal qu'on ne mangera pas. Versets 46 et 47. Animaux qui ruminent et qui ont l'ongle divisé. À l'égard des quadrupèdes, deux choses étaient essentielles pour qu'ils soient purs. Il fallait qu'ils ruminent et qu'ils aient l'ongle divisé. Vous mangerez, d'entre les bêtes qui ruminent, tout ce qui a l'ongle fendu et le pied complètement divisé. Verset 3. L'une ou l'autre de ces marques seules aurait été insuffisante pour constituer la pureté cérémonielle. Les deux devaient être réunis. Et tandis que ces deux marques suffisaient pleinement pour diriger l'Israélite quant à la distinction entre les animaux purs et impurs, indépendamment du sens ou des motifs de ces caractères, le chrétien, lui, peut s'enquérir des vérités spirituelles contenues dans ses ordonnances cérémonielles. Que nous enseignerons donc ces deux traits d'un animal pur? L'action de ruminer exprime l'acte de digérer intérieurement ce que l'on mange, tandis que l'ongle divisé représente le caractère de la marche extérieure. Or, il y a un rapport intime entre ces deux choses dans la vie du chrétien. Celui qui paît dans les verts pâturages de la parole de Dieu et digère ce qu'il y prend, celui qui ajoute à l'étude la calme méditation, manifestera sans doute une marche à la louange de celui qui a bien voulu nous donner sa parole pour diriger nos voies et former nos habitudes. Il est à craindre que beaucoup de ceux qui lisent la Bible ne la digèrent pas. Il y a une immense différence entre ces deux choses. On peut lire chapitre après chapitre, livre après livre, comme une froide et vaine routine, mais par manque de facultés ruminantes, d'organes digestifs, d'en retirer aucun profit. C'est à quoi il faut prendre bien garde. Le bétail qui broute l'herbe verte peut nous enseigner une leçon salutaire. Il recueille d'abord diligemment sa pâture, puis il se couche tranquillement pour la ruminer. Belle et frappante image d'un chrétien se nourrissant du précieux contenu du volume inspiré, puis le digérant intérieurement. Si nous étions plus habitués à faire de la parole la nourriture nécessaire et journalière de nos âmes, nous serions certainement dans un état plus vigoureux et plus sain. Gardons-nous de faire de la lecture de la Bible un froid devoir, une affaire de routine religieuse. La même précaution est nécessaire à l'égard de l'exposition de la parole en public. Que ceux qui expliquent les Écritures à leurs semblables s'en nourrissent et les digèrent d'abord pour eux-mêmes. Qu'ils lisent et ruminent en particulier, non seulement pour les autres, mais pour eux-mêmes. C'est triste de voir un homme continuellement occupé à procurer de la nourriture à autrui, tandis que lui meurt de faim. Et que ceux qui assistent au ministère public de la parole ne le fassent pas machinalement et seulement par habitude, mais avec un sincère désir d'apprendre et de digérer ce qu'ils entendent. Alors, et ceux qui enseignent, et ceux qui sont enseignés, seront dans un bon état, la vie spirituelle sera nourrie et soutenue, et une marche selon Dieu sera manifestée. Vie intérieure et marche extérieure. Souvenons-nous que l'action de ruminer ne doit jamais être séparée de l'ongle fendu. Un Israélite ne connaissant qu'imparfaitement la loi et voyant un animal ruminant aurait pu à la légère le déclarer pur. Cela aurait été une erreur. Une plus soigneuse connaissance des ordonnances divines lui aurait montré qu'il devait aussi observer la marche de l'animal, remarquer l'empreinte laissée par chaque pas. Seulement de ceci vous ne mangerez pas, d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'ongle fendu, le chameau, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu. Il vous est impur, etc. Versets 4 à 6. De même, l'ongle divisé n'était pas suffisant s'il n'était pas accompagné de la rumination. Et le porc, car il a l'ongle fendu et le pied complètement divisé, mais il ne rumine nullement, il vous est impur. Verset 7. Les deux choses étaient inséparables pour tout animal pur, et quant à l'application spirituelle, elle est de la plus haute importance au point de vue pratique. La vie intérieure et la marche extérieure doivent aller ensemble. Un homme peut se nourrir de la parole de Dieu, l'étudier et la ruminer, mais si les traces de sa marche sur le sentier de la vie ne sont pas telles que le demande la parole, à quoi cela sert-il? Et d'un autre côté, un homme peut marcher avec la plus grande exactitude, mais si sa marche n'est pas le résultat de la vie cachée, elle ne vaut rien du tout. Il faut qu'il y ait au-dedans le principe divin qui prend et digère la riche pâture de la parole de Dieu, sans quoi la marque des pas ne servira de rien. La valeur de chacun de ces éléments dépend de sa liaison avec l'autre. Cela nous rappelle un bien sérieux passage de la première épître de Jean, dans lequel l'apôtre nous donne les deux marques auxquelles nous pouvons connaître ceux qui sont de Dieu. Par ceux-ci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, verset 10. Nous avons ici les deux grands traits caractéristiques de la vie éternelle que possèdent tous les vrais croyants, savoir la justice et l'amour, le signe extérieur et le signe intérieur. Les deux doivent être réunis. Quelques chrétiens sont tout pour ce qu'ils appellent l'amour, d'autres pour la justice. Selon Dieu, l'un ne peut aller sans l'autre. Si ce qu'on appelle amour existe sans la justice pratique, ce ne sera, en réalité, qu'une disposition d'esprit faible et relâchée qui tolérera toute espèce d'erreur et de mal. Et si ce qu'on appelle justice existe sans l'amour, ce sera une disposition d'âme sévère, orgueilleuse, pharisaïque, égoïste, se souciant seulement de sa réputation personnelle. Mais là où la vie divine agit avec énergie, on trouvera toujours la charité intérieure unie à une réelle justice pratique. Ces deux éléments sont essentiels à la formation du vrai caractère chrétien. Il faut qu'il y ait l'amour qui se montre pour tout ce qui est de Dieu, et en même temps, la sainteté qui recule avec horreur devant tout ce qui est de Satan. Animaux vivant dans les eaux. Voyons maintenant les prescriptions lévitiques à l'égard de tout ce qui est dans les eaux. Ici encore, nous trouvons la double marque. Vous mangerez de ceci, d'entre tout ce qui est dans les eaux, vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles, dans les eaux, dans les mers et dans les rivières. Et tout ce qui n'a point de nageoires et d'écailles, dans les mers et dans les rivières, de tout ce qui fourmille dans les eaux et de tout être vivant qui est dans les eaux, vous sera une chose abominable. Versets 9 et 10. Deux choses étaient nécessaires pour rendre un poisson cérémoniellement pur. Les nageoires et les écailles qui, évidemment, représentaient une certaine aptitude pour l'élément dans lequel l'animal devait se mouvoir. Mais il y avait plus. Je crois que nous avons le privilège de pouvoir discerner, dans les propriétés naturelles dont Dieu a doté les créatures qui vivent dans les eaux, l'image de certaines qualités spirituelles qui appartiennent à la vie chrétienne. S'il faut au poisson des nageoires pour se mouvoir dans l'eau, et des écailles pour résister à l'action de cet élément, le croyant aussi a besoin de cette force spirituelle qui le met à même de marcher en avant à travers le monde qui l'entoure, et en même temps de résister à son influence, de ne pas s'en laisser pénétrer, de le tenir dehors. Ce sont de précieuses qualités. L'une ne servira de rien sans l'autre. Il est inutile de posséder la capacité de traverser le monde si nous ne sommes pas à l'épreuve contre son influence. Et quoique nous puissions paraître capables de nous garantir du monde, cependant, si nous n'avons pas la force pour avancer, nous sommes en défaut. Toute la conduite du chrétien devrait le montrer comme pèlerin et étranger ici-bas. Sa devise devrait toujours être « en avant ». Quelles que soient ses circonstances, ses yeux doivent être fixés sur une demeure qui se trouve au-delà de ce monde périssable. Et tout en frayant ainsi vigoureusement sa route en avant, il faut qu'il garde son homme intérieur cuirassé et fermé soigneusement à toutes les influences du dehors. Les oiseaux. Du verset 13 au verset 24, nous avons la loi relative aux oiseaux. Tous ceux qui étaient du genre carnivore, c'est-à-dire tous ceux qui se nourrissent de chair, étaient impurs. Les omnivores, ou ceux qui mangeaient de tout, étaient impurs. Tous ceux qui, quoique doués de la faculté de s'élever dans les cieux, se traînaient néanmoins sur la terre, étaient impurs. Quant à cette dernière classe, il y avait quelques exceptions, versets 21 et 22. Mais la règle générale était aussi explicite que possible. Tout reptile volant, qui marche sur quatre pattes, vous sera une chose abominable, verset 20. Tout cela est instructif pour nous. Non seulement nous pouvons voir, dans les habitudes des trois classes d'animaux ci-dessus, le sage motif qui les faisait déclarer impurs, mais nous y voyons aussi l'image de ce dont tout vrai chrétien doit absolument se garder. Il doit repousser tout ce qui est d'une nature charnelle. De plus, il ne peut se nourrir de tout ce qui se présente à lui. Il doit discerner entre les choses qui diffèrent, prendre garde à ce qu'il entend, exercer un jugement spirituel, développer des goûts célestes. Il faut qu'il se serve de ses ailes, celles de la foi, et qu'il trouve sa place dans la sphère céleste à laquelle il appartient. La sainteté de Dieu et la sainteté du croyant. Ce n'est pas seulement de l'acte de manger ce qui était impur que le peuple de Dieu devait soigneusement se garder. Le simple contact était défendu. Voyez le verset 8, 24, 26 à 28, 31 à 40. Il était impossible de toucher ce qui était souillé sans contracter une souillure. Ce principe est largement développé dans la loi et dans les prophètes. Ainsi dit l'Éternel des armées, interroge les sacrificateurs sur la loi, disant « Si un homme porte de la chair sainte dans le pan de sa robe, et qu'il touche avec le pan de sa robe du pain, ou quelque mets, ou du vin, ou de l'huile, ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché sera-t-il sanctifié ?» Et les sacrificateurs répondirent et dirent « Non ». Et Agjé dit « Si un homme qui est impur par un corps mort touche quelqu'une de toutes ces choses, est-elle devenue impure ?» Et les sacrificateurs répondirent et dirent « Elle est impure ». Agjé 2, verset 11 à 13. L'Éternel voulait que son peuple soit saint à tous égards. Nul ne devait ni manger, ni toucher quoi que ce soit de souillé. Ne rendez pas vos âmes abominables par aucun reptile qui rampe, et ne vous rendez pas impurs par eux, de sorte que vous soyez impurs par eux. Verset 43. Puis vient la raison puissante de toute cette séparation sévère. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne rendrez pas vos âmes impures par aucun reptile qui se meut sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, afin que je sois votre Dieu. Et vous serez saints, car je suis saint. Versets 44 et 45. Il est bon de voir que la sainteté personnelle des serviteurs de Dieu, leur entière séparation de toute espèce de souillure, découle de leur relation avec lui. Ce n'est pas sur le principe de « Tiens-toi loin, ne me touche pas, car je suis saint vis-à-vis de toi. » Ésaïe 65, verset 5. Mais simplement sur celui-ci, Dieu est saint. C'est pourquoi tous ceux qui sont en relation avec lui doivent aussi être saints. Tes témoignages sont très sûrs. La sainteté sied à ta maison, ô Éternel, pour de longs jours. Psaume 93, verset 5. Qu'y a-t-il qui aurait pu convenir à la maison de l'Éternel plus que la sainteté? Si l'on avait demandé à un Israélite, pourquoi recules-tu ainsi devant ce reptile qui se traîne sur le sentier? Il aurait répondu, l'Éternel est saint, et je lui appartiens. Il a dit, ne touche pas cela. De même maintenant, si l'on demande à un chrétien pourquoi il se tient à part de tant de choses auxquelles les hommes du monde prennent part, sa réponse doit être tout simplement « Dieu est saint, et je suis un de ses enfants ». C'est là le vrai principe de la sainteté personnelle. Plus nous contemplons le caractère de Dieu et comprenons la réalité de nos relations avec lui, en Christ, par l'énergie du Saint-Esprit, plus nous serons saints en pratique. Il ne peut y avoir progrès dans l'état de sainteté où le croyant est introduit. Mais il y a, et il doit y avoir, progrès dans l'appréciation, dans l'expérience et la manifestation pratique de cette sainteté. Ces choses ne devraient jamais être confondues. Tous les croyants sont dans la même position de sainteté, mais leur mesure pratique peut varier à l'infini. Cela est facile à comprendre. Notre position résulte de ce que nous sommes approchés de Dieu par le sang de la croix. Notre mesure pratique dépend de la manière dont nous nous maintenons près de Dieu par la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas prétendre à quelque chose qui soit au-dessus de notre portée, à un degré de sainteté personnelle plus élevé que d'autres, à être, en quelque manière, meilleur que son frère. De telles prétentions sont haïssables. Mais si Dieu, dans sa grâce infinie, s'abaisse jusqu'à nous et nous élève jusqu'à lui, en association avec Christ, n'a-t-il pas le droit de nous prescrire quel doit être notre caractère? Et ne sommes-nous pas tenus de chercher à conserver ce caractère qu'il nous prescrit? Devons-nous être accusés de présomption si nous le faisons? Était-ce une présomption pour un Israélite de refuser de toucher à un reptile? Non, cela aurait été une audacieuse et dangereuse présomption de le faire. Il lui était peut-être difficile de faire comprendre et apprécier à un étranger le motif de sa conduite, mais peu importait. L'Éternel avait dit « Ne touchez pas », non parce qu'un Israélite était, par lui-même, plus saint qu'un étranger, mais parce que l'Éternel était saint et qu'Israël lui appartenait. Il doit toujours en être ainsi. Ce ne sont que les enfants de la sagesse qui peuvent la justifier et approuver ses voies célestes. Voir Matthieu 11, verset 19. Des ordonnances révolues. Avant de quitter ce chapitre 11, comparons-le avec le chapitre 10 des Actes. Comme il dut paraître étrange à Pierre, élevé dès son enfance dans les principes de la loi de Moïse, de voir une grande toile descendant du ciel dans laquelle il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, et d'entendre une voix lui disant « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Il est bien compréhensible que Pierre se retranche derrière les étroites barrières des ordonnances judaïques et s'écrie « Non point, Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur ou immonde. » Mais il doit apprendre que le flot de la grâce divine s'élève maintenant par-dessus ces barrières. Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. Peu importait ce qui était dans la toile, puisque Dieu l'avait purifié. Le vrai auteur du livre du Lévitique allait élever les pensées de son serviteur au-dessus des barrières que ce livre avait érigées jusqu'à toute la magnificence de la grâce céleste. Il voulait lui enseigner que la vraie pureté, celle que le ciel demandait, ne devait plus consister dans l'acte de ruminer ou dans le fait d'avoir l'ongle divisé, mais à être lavé dans le sang de l'agneau qui purifie de tout péché et rend le croyant assez pur pour se tenir dans la présence de Dieu. C'était là une leçon divine qu'un juif devait recevoir et à la lumière de laquelle les ombres de l'ancienne économie s'évanouissaient. La grâce souveraine ouvre la porte du royaume, mais non pour y admettre quoi que ce soit d'impur. Rien d'impur ne peut entrer au ciel, et le critère de la pureté n'est plus un ongle fendu, mais uniquement ceci, ce que Dieu a purifié. Et quand Dieu purifie un homme, il est certes pur. Pierre allait être envoyé pour ouvrir le royaume aux gentils, comme il l'avait déjà ouvert aux juifs, et son cœur juif avait besoin d'être élargi. Il avait besoin de s'élever au-dessus des ombres d'un temps qui n'était plus, dans la lumière éclatante qui rayonnait d'un ciel ouvert, en vertu d'un sacrifice accompli et parfait. Il avait aussi à apprendre que la mesure qui devait déterminer la vraie pureté n'était plus cérémonielle et terrestre, mais spirituelle, morale et céleste. Nous pouvons donc bien dire que c'était de grandes leçons que celles que reçut l'apôtre de la circoncision sur le toit de la maison de Simon le corroyeur. Elles étaient évidemment propres à adoucir, à élargir, à élever un esprit qui avait été formé au milieu des influences rétrécissantes du système juif. Nous bénissons le Seigneur pour ces précieuses leçons. Nous le bénissons pour la belle et riche position où il nous a placés par le sang de la croix. Nous le bénissons de ce que nous ne sommes plus entravés par des « ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas », mais de ce que la parole nous déclare que toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a aucune qui soit à rejeter, étant prise avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. 1 Timothée 4, versets 4 et 5.